Chapitre 15. Jamais on ne passera! Le camion avait parcouru une centaine de mètres sans encombre. La fumée rendant la visibilité pratiquement nulle, Chuck avait dû freiner à plusieurs reprises en catastrophe pour éviter de happer les hommes, les femmes et les enfants pris de panique qui traversaient subitement l'allée et qui, sans ses réflexes, se seraient jetés sous ses roues. Du bout des doigts, il pressait en continu le poussoir de la sirène placé sur le moyeu du volant. Les yeux rivés sur le rétroviseur, Solman vit qu'une poignée de camions s'était élancée à leur suite. Les chauffeurs, exercés par leur longue pratique des convois, avaient compris qu'ils ne devaient pas se précipiter en désordre vers la sortie du relais, mais se caler sur le véhicule de tête. Même si une roquette ou un obstacle pouvait à tout instant arrêter ce dernier et les condamner à une immobilité définitive, ils savaient d'instinct que leur seule chance d'atteindre l'entrée du passage taillée sous la roche reposait sur la cohésion. Sur cette discipline d'ensemble acquise et peaufinée au cours d'années et d'années de conduite sur les pistes d'Europe. Les ululements graves des sirènes dominaient à présent le raffut des explosions et les aboiements rageurs des armes automatiques, invitaient le peuple de l'eau à se ressaisir, informaient chacun de ses membres qu'il n'était plus livré à lui-même, qu'une parade commune s'organisait, que la force du collectif réussirait peut-être à les tirer d'une situation en apparence désespérée. Les guetteurs, qui avaient eu le temps de descendre de leur poste avant d'être fauchés par une rafale, s'étaient calés contre les citernes, les voitures, les remorques ou les épaves. Leur riposte, bien que sporadique, contraignait les assaillants à ralentir leur propre cadence de tir, et multipliait les infimes sursis qui, mis bout à bout, devenaient des intervalles de temps dans lesquels la caravane pouvait s'engouffrer. Le pare-choc du camion percuta un enfant surgi nu et ensanglanté d'un rideau de fumée. Et malgré la vitesse réduite, l'envoya rouler 5 ou 6 mètres plus loin. « Putain de bordel de merde !» vociféra Chuck, le visage perlé de gouttes de sueur. Il s'arc-bouta de tout son poids sur la pédale de frein et réussit à s'arrêter avant de passer sur le corps inerte.
« J'y vais !»
hurla Solman. Il ouvrit la portière, dévala d'un bond le marchepied, se reçut comme il le put sur le sol rocheux. L'air l'enveloppa comme une gangue incandescente. Les odeurs mêlées de poudre, de métal fondu et de caoutchouc brûlé transpercèrent son masque de tissu, lui agressèrent les narines, le palais et la gorge. Il suspendit sa respiration, se rua vers l'enfant, âgé de 4 ou 5 ans, recroquevillé en chien de fusil à moins de 50 centimètres de la roue au cran usé, et lui palpa les jugulaires. Le cœur battait encore, mais des filets de sang s'écoulaient de ses oreilles et des commissures de ses lèvres. Le reste du corps ne présentait que des lésions superficielles, des égratignures teintées de rouille, certainement dues au frottement avec les saillies des engins militaires à l'abandon. Une explosion secoua le sol et vibra un long moment dans les structures métalliques environnantes. Une torche vivante traversa l'allée en abandonnant une plainte pathétique sur son passage. Solman souleva l'enfant, parvint à remonter dans la cabine malgré une douleur aiguë à sa jambe et allongea le petit corps sur la couchette. Chuck embraya et accéléra avec un peu trop de brutalité, puisque le camion octa et trembla de toute sa carcasse, avant de repartir. « Tu crois que le gosse s'en tirera ?»«
N'en sais rien, »
répondit Solman en reprenant place sur le siège.
« Ce que je sais, c'est qu'on ne peut plus s'arrêter, ou nous gaspillerons nos dernières chances de nous en sortir. »«
T'es capable de voir à l'intérieur des gens ce qu'on m'a raconté ?» C'est le moment ou jamais de te servir de ton don, tu penses pas? Peut-être que tu pourrais me guider, m'indiquer la sortie. Rien ne prouve que ça marche dans ce genre de situation. Tu le sauras jamais si t'essaies pas. C'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure.
Chuck faillit emboutir une citerne percée et garée en travers qui surgit comme un spectre de l'étoupe grise. Un coup de volant désespéré sur la gauche lui permit d'éviter la collision et de s'engouffrer dans une allée perpendiculaire. Agenouillé devant un cadavre calciné, une femme au visage déformé par la douleur et à la robe en lambeaux agitait vainement les bras. La tempête de soufre et de feu faisait rage alentour. Les éclairs aveuglants semblaient jaillir de la terre pour tenter de désagréger le nuage de fumée qui recouvrait le cirque. S'il handicapait Chuck et les autres chauffeurs, le manque de visibilité présentait l'avantage de masquer aux yeux des assaillants leur tentative éperdue de gagner la sortie du relais.
« J'ai une putain d'impression de tourner en rond !» gronda Chuck. « J'ai aucun repère, rien pour m'orienter !»
Solman jeta un bref coup d'œil à l'enfant allongé sur la couchette et constata que sa poitrine continuait de se soulever régulièrement. Puis, se rendant compte qu'il ne voyait pas à 10 mètres devant eux, il se résolut à suivre le conseil de Chuck, à en appeler à l'autre vision, à la vision pénétrante, à la clairvoyance. Il n'avait jamais exercé son don dans ce genre de circonstances, parce que l'occasion ne s'était pas présentée, parce que, depuis qu'il était donneur, jamais le peuple de l'eau ne s'était trouvé dans une situation aussi critique. Il s'efforça de se concentrer sur l'allée noyée de fumée, prit conscience qu'il haletait comme un jeune chiot, qu'il se projetait tout entier vers l'extérieur, vers les grondements et les éblouissements des explosions, vers les corps éventrés ou calcinés pétrifiés au sol dans d'étranges poses, vers les survivants qui couraient dans tous les sens comme des fourmis affolées. Il lui fallait couper les prises, s'extraire de ce contexte qui sollicitait ses sens, ses émotions, qui le maintenait à un niveau d'excitation tel que l'idée même de plonger en lui-même lui paraissait inconcevable. Il arracha son masque de tissu, ferma les yeux, lutta pendant quelques secondes contre une envie folle de les rouvrir, éprouva les pires difficultés à franchir le barrage de bruit qui le coupait de sa source intime. Faillit remonter brutalement à la surface lorsqu'un coup de frein de Chuck l'éjecta à moitié de son siège, se cramponna à la fois à l'accoudoir et à sa volonté pour rester immergé dans son silence intérieur. Il ne perçut rien d'autre, dans les premiers temps, qu'une sensation de paix, une forme d'indifférence au monde, comme si le monde n'était que l'écume d'une autre réalité, plus stable celle-ci, où le mental et les émotions apparaissaient pour ce qu'ils étaient, des vagues, des remous superficiels sans cesse stimulés par les sens. Une part de lui refusait l'acte de confiance totale exigé par ce niveau de réalité, s'obstinait à jouer la musique entêtante de l'angoisse, soufflait sur ses peurs et ses doutes, mais, comme un plongeur rivé à sa corde, il poursuivit sa descente vers les profondeurs de l'être. Accepta de se défaire de cette conscience du moi qui l'emprisonnait dans des limites. Accepta de s'abandonner au vide. Effrayant pour qui se croit défini par l'espace et le temps. Euphorisant pour qui accepte de n'être qu'une goutte dans l'océan et qui apprend en retour que l'océan est contenu dans la goutte. Il s'immergea dans un flot sans commencement ni fin, où n'existait ni passé ni futur, où l'être se suffisait à lui-même. Il se sentit imprégné d'éternité, non pas à la manière de ces fous d'immortalité qui se dérobent sans cesse face à l'énigme du temps, mais éveillé, vigilant, tout entier contenu dans le présent. Il percevait les bruits extérieurs avec une acuité décuplée, les jurons de Chuck, les grincements de la boîte de vitesse, le ronflement du moteur, les gémissements de l'enfant, les lamentations des blessés, le crépitement des balles sur le pare-brise, les coups de tonnerre des explosions. Il ne perturbait plus son silence. Il n'affectait plus ses émotions. Il n'était plus que des signes jalonnant une portion de l'espace et du temps, des bornes entre lesquelles il pouvait désormais déployer son don. Sa vision engloba l'ensemble du cirque. Le centre, occupé par les cuves et les pompes de gaz, le réseau labyrinthique formé par les allées entre les camions, les voitures et les remorques. Les cratères forés par les roquettes. Les incendies propagés par le vent. Les groupes d'assaillants répartis tous les 10 pas le long de la muraille circulaire. Les hommes semblaient s'opposer à l'intérieur et sur le pourtour du relais, mais tous, comme les membres d'un grand corps, évoluaient sur une fréquence commune dont ils avaient occulté l'existence. Tous étaient façonnés par cette présence silencieuse qui avait le pouvoir d'effacer les souffrances, de guérir les blessures du temps. Un sentiment de compassion monta en Solman, avec la force d'une marée, déblaya ses peurs, irrigua ses pensées, son souffle, son cœur, tendit son énergie vers les survivants du peuple aquariote, vers l'enfant qui agonisait sur la couchette.
« On est baisés !»
hurla Tchak. Les débris enflammés d'une remorque barraient l'allée sur toute sa largeur.
« Tourne à droite, » dit Solman sans rouvrir les yeux.
« À droite, t'es dingue ! C'est complètement bouché par là !»«
Une voiture détachée. Pousse-la avec ton camion. Il n'y a personne dedans. »«
Tu crois que... »
Tchak jeta un coup d'œil à Solman et se rendit compte que son visage était paisible, absent, comme transfiguré. Le chauffeur réagit en homme simple. Il ne chercha pas à comprendre les raisons de cette soudaine métamorphose, il y décela l'intervention de la Providence et plaça d'emblée toute sa confiance dans le pouvoir du donneur qu'il avait appelé de tous ses vœux quelques instants plus tôt. Sans cesser d'actionner sa sirène, il tourna à droite, avança à allure réduite pour amortir le choc, entra en contact avec la voiture dont la porte s'arracha de ses gonds, rétrograda, accéléra à fond pour lâcher toute la puissance du moteur. Prise en travers, la voiture glissa sur ses roues, pivota sur le côté, se renversa et éclata comme un fruit mûr en touchant le sol. Tchak s'épongea le front d'un revers de manche. Aussi loin que portait sa vue, il ne distinguait pas d'autre obstacle entre les rangées de camions et de citernes, dont certaines perdaient l'euro en abondance. Les balles criblaient son pare-brise d'impact de la taille d'un œil. Il avait déjà perdu deux des trois couches de verre incassable qui équipaient toutes les ouvertures des camions et des voitures. La première, à cause d'un éboulement dans les Carpates orientales. La deuxième, à cause d'une averse de grêlons plus gros que des œufs de poule. Il espéra que la dernière tiendrait le coup. Mais à en croire les brisures de plus en plus longues qui couraient sur le matériau transparent, il était permis d'en douter.
« Stop !»
dit Solman. Tchak s'exécuta, bien que l'allée lui parut toujours dégagée.
« Qu'est-ce qu'on... »
Une détonation assourdissante lui rentra sa question dans la gorge. Une langue de feu lécha le sol à moins de 5 pas du camion. Une pluie de terre et de débris dégringola sur le pare-brise et le capot. Un objet atterrit sur l'aile avant gauche, un objet que Tchak, abasourdi, identifia comme un bras.
« Bon Dieu ! Si on avait... »«
Avance !» dit Solman.
Mais il doit y avoir un trou de plusieurs mètres de...
Avance. Tchak obtempéra tout en gardant le pied gauche au-dessus de la pédale de frein. Il entrevit, sous les entrelacs de fumée, la forme sombre et caractéristique d'une cavité, sans doute plus d'un mètre de profondeur, largement de quoi se planter pour de bon. Il apercevait dans son rétroviseur le pare-choc et la calandre du camion qui, tout phare allumé, suivait de près sa deuxième remorque. « À gauche ?» dit Solman. Tchak hocha la tête et amorça son virage pour glisser son véhicule dans un étroit espace entre deux amas de ferraille. Les ailes du camion et les flancs de la citerne grincèrent contre les aspérités métalliques qui saillaient comme autant de lances des carcasses empilées. « Tout droit et à fond !» D'un nouveau coup d'œil dans le rétroviseur, Tchak s'assura que le chauffeur suivant était passé sans encombre, puis écrasa la pédale d'accélérateur. Le moteur libéra toute sa rage. Le camion prit de la vitesse et fonça dans le brouillard qui s'opacifiait encore dans cette partie du cirque. Trempé de sueur, les nerfs à vif, Tchak avait l'impression de conduire en aveugle. À cette allure et avec cette absence de visibilité, il n'aurait aucune chance d'éviter un éventuel obstacle. Deux corps étendus surgirent à moins de 5 mètres de son pare-choc. Le léger chaos qui secoua la cabine lorsque sa roue avant gauche leur passa dessus lui fit l'effet d'un choc effroyable. Sans doute était-il déjà mort. Il lui avait pourtant semblé que l'un d'eux avait agité le bras. Mais il ne put s'empêcher de penser qu'il les avait tués une deuxième fois. Écraser quelqu'un était l'autre hantise des chauffeurs. Cela lui était arrivé comme à beaucoup de ses collègues. 20 ans plus tôt, une adolescente était tombée d'un arbre au moment où il partait en direction d'une cuve d'eau déterrée par les sourciers. Il l'avait pratiquement coupée en deux au niveau de la taille. Après enquête et audition des témoins, le conseil Aquariot l'avait publiquement dégagé de sa responsabilité, mais il avait mis des années à oublier l'atroce souvenir du corps mutilé par ses roues. « La porte du relais !» dit Solman. « Tout droit !»
« Ces fumiers ne nous attendent pas de l'autre côté ?»«
Pas encore. Ils sont obnubilés par les cuves et les pompes, et la fumée est tellement épaisse qu'ils ne nous voient pas. »«
Comment tu peux ?»
Tchak s'interrompit. plus tard les questions, quand il serait sorti de ce merdier. Il s'agissait maintenant de ne pas rater le court tunnel qui donnait sur la piste et dont l'étroitesse interdisait tout écart. La muraille rocheuse se dressait dans le lointain, ombre haute dont l'immobilité contrastait avec l'instabilité des volutes grises modelées par le vent.
J'ai comme l'impression que t'as réussi à me guider dans cette foutue purée d'honneur,
murmura le chauffeur. Il distinguait à présent la bouche arrondie du passage. La lumière du soleil s'y engouffrait et nimbait d'argent les entrelacs de fumée. Fonce, dit Solman d'une voix toujours aussi neutre. Ils ont compris notre manœuvre. Ils essaient de nous boucher le passage. Chuck, qui avait inconsciemment ralenti pour viser l'entrée du tunnel, rétrograda et enfonça la pédale d'accélérateur.
« C'est le moment de savoir ce que t'as vraiment dans le bide, mon vieux Chuck, »
marmonna-t-il. Il discerna des silhouettes enrobées de lumière à l'autre extrémité du passage, affairées à descendre un bazooka à l'aide de cordes. Bon Dieu, si ces salopards réussissaient à installer leur engin à temps, ils transformeraient son camion en une bouillie métallique et bloqueraient les autres dans la nasse. Une telle tension aiguisa son cerveau, ses nerfs, ses muscles, qu'il oublia toutes ses peurs. L'aiguille du compteur bondit au-dessus de la marque des 80 km/h. Le regard rivé sur la bouche au cintre arrondi, il ne marqua aucune hésitation au moment de s'engager dans le tunnel. Le grondement du moteur prit une résonance effrayante sous la roche. L'aile droite racla la paroi dans une gerbe d'étincelles. Chuck s'en dégagea d'un petit coup de volant qui faillit jeter le camion sur le bord opposé. Les hommes étaient au nombre de 6 de l'autre côté. 6 en plein milieu de la voie d'accès, en train de charger avec des gestes fébriles le lance-roquette dont le canon se braquait déjà sur cette cible immanquable qu'était la porte du relais.